Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus, 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter également en podcast sur fmplus.org. Ce mois d'octobre est consacré à l'homéopathie, cette médecine dite douce qui connaît un succès croissant en Europe et en particulier en France. Une première émission a été diffusée le 1er octobre. Elle est écoutable en podcast sur notre site. Aujourd'hui, nous affinerons nos connaissances par de nombreux exemples, toujours en compagnie des docteurs homéopathes Marie-Luc Caron-Philippon et Sonia Cohen. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous faites partie du Centre de Santé d'Homéopathie à Euromédecine Montpellier. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler l'objectif de votre association 1901 ?
L'association Homéopathie pour tous, pour rappeler rapidement, est une association humanitaire à viser de soigner les gens les plus démunis en privilégiant l'homéopathie comme thérapeutique. C'est l'objet de notre association.
Et alors, à long terme, vous aimeriez bien aussi...
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a créé, effectivement, au vu de notre expérience qui date d'un certain temps, on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient, en particulier les jeunes parents, les étudiants, les enfants, n'avaient pas obligatoirement accès à ce type de thérapeutique, qui est quand même pas toxique, et qu'on s'est dit que peut-être ouvrir un centre pourrait être intéressant. Ce que nous avons fait, qui est ouvert en avril 2014. Donc, trois raisons d'ouvrir ce centre. La première, ce que je viens d'évoquer. La deuxième, c'est qu'il y a de moins en moins d'homéopathes et qu'on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'avoir sur le même lieu des homéopathes qui seraient d'accord pour travailler avec nous, peut-être qu'ils soient ou remplaçants ou qu'ils soient en pré-retraite ou en retraite, qui viendraient une fois, deux fois par mois. Ça, c'est l'offre. Et ensuite, le troisième élément, c'est la formation. C'est-à-dire que non seulement il y a donc de moins en moins, il y a de plus en plus de demandes, je crois, hein, il y a de moins en moins d'offres, et surtout, il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'au niveau de la faculté de médecine, il y a peu de reconnaissance, et en particulier à Montpellier, il n'y en a pas du tout. Que des médecins sont obligés, après leurs études, de faire 3 ans de plus d'études et que peut-être ils n'ont pas obligatoirement envie parce que il y a quand même une déficience de médecins, donc ils s'installent et voilà. Donc on voudrait peut-être travailler avec les écoles d'homéopathie qui existent pour être un lieu de stage pour des médecins jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui voudraient voir comment on travaille.
Ah oui, oui, une très bonne initiative.
Alors, on espère pouvoir y arriver.
Oui, oui. Alors de suite, l'adresse de votre blog.
Homéo pour tous. Alors http://homeopourtous.sup.fr.
Alors est-ce que pour mémoire, vous voulez nous redonner une définition très courte de l'homéopathie ?
Alors, très court de l'homéopathie. Donc, il y a trois principes importants en homéopathie. C'est que le remède, donc, a été dilué et dynamisé, le principe de similitude. Voilà, ça, donc, ce sont des trois principes très importants que le docteur Samuel Hahnemann, en 1780, donc, a initié, après avoir fait des recherches sur lui-même et tous ses étudiants. C'est-à-dire qu'au départ, il utilisait des remèdes à dose toxique, l'écorce de quinine. Et donc, en utilisant ces écorces de quinine à dose toxique, chez des personnes donc qui étaient malades, ça entraînait une intoxication. Et cette intoxication donnait comme symptômes des tremblements, un engourdissement, de la fièvre. Donc tous les symptômes en fait de la fièvre malaria, de la fièvre, oui, la fièvre paludisme. Et donc il en a conclu que quand on diluait, c'est-à-dire que quand on diluait de plus en plus de façon infinitésimale les remèdes et qu'on les dynamisait, c'est-à-dire avec plusieurs succussions, chez des personnes saines, on pouvait donc utiliser chez des personnes qui avaient ces symptômes de la maladie malaria, on pouvait utiliser ces mêmes symptômes et ça guérissait cette fièvre. Voilà les grands symptômes de la que le docteur Hahnemann a mis au point en 1750 à peu près.
Merci. 1790, je crois.
Donc, 1790.
Un an après la Révolution française.
Alors, il semblerait qu'une fois de plus, le médicament homéopathique soit attaqué. Il ne serait plus dans le panier de soins des remèdes pris en charge par les complémentaires. C'est une info que j'ai lue dans le quotidien du médecin le 28 mai. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'en est-il?
Rapidement, parce que oui. C'est vrai que c'est un problème, disons, en ce moment, qui est... Enfin, c'est un problème politique dans le sens large du terme. Il y a un décret qui est sorti en septembre 2014, donc c'est pas bien vieux, qui effectivement donne les délimitations de ce qui va être remboursé par les mutuelles, qui seront obligatoires à mettre en place par les entreprises pour les salariés. Alors comme c'est un peu complexe, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, nous essaierons au niveau du blog de mettre ce décret. Et pour dire pourquoi c'est une manière insidieuse, une fois de plus, d'attaquer l'homéopathie, c'est que déjà le médicament homéopathique est remboursé à 35% et tous les médicaments dits à SMR, SMR faible, ne feront pas partie du panier de soins et les médicaments homéopathiques, non. Sachant que ce sera dans le panier de soins minimum. Donc après, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, mais le décret sera sur le blog.
Parfait. Alors, on va venir aux exemples concrets. À qui s'adresse cette médecine et quelles en sont les indications?
Alors, cette médecine s'adresse à tout le monde, tout en sachant que donc, l'homéopathie est pratiquée par un médecin, ne l'oublions pas, et donc il y a des diagnostics à faire. Que dans les maladies, par exemple, chroniques, des maladies graves, telles que le cancer, ou enfin, des maladies chroniques, les gens qui sont avec leur traitement... On n'arrête sûrement pas un traitement anticancéreux, mais on peut aider les personnes qui, avec ces traitements allopathiques, ont des effets secondaires. Donc on peut atténuer les effets secondaires liés à de lourds traitements qui sont importants. Et surtout, sur le plan psychique, on peut les aider aussi à dépasser leur pathologie.
Est-ce qu'il y a des contre-indications ?
Moi, je dirais que non.
Alors, pour moi, la contre-indication, c'est quand la personne n'est... Je parlais tout à l'heure... J'avais évoqué le principe de l'énergie vitale. C'est-à-dire que vous voyez une personne qui a 40 degrés de fièvre, qui est dans un état de fatigue extrême et qui n'est plus du tout en état de recevoir un médicament homéopathique parce que l'énergie vitale est nulle. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a peut-être une autre approche à avoir. Ce n'est pas une contre-indication, mais c'est pour moi une maladie où l'homéopathie n'agira pas aussi bien que soit en préventif, alors c'est voilà, histoire de ne pas être malade, ou alors des pathologies chroniques d'accompagnement, mais où la personne a quand même une énergie vitale qui est là. Elle pourra répondre, elle pourra être en résonance avec le médicament homéopathique.
Moi, je pourrais rajouter, pourrais rajouter que l'homéopathie, quand même, est très efficace dans les maladies aiguës. Donc, une fièvre à 40 n'est pas une contre-indication de l'homéopathie en maladie aiguë. Et donc, c'est vrai que l'énergie, quand les personnes sont dans un état d'énergie vitale, et en particulier parce qu'il y a des barrages énormes avec certains médicaments, dont les antimitotiques, l'approche va être complètement différente. C'est ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais en médecine, enfin, à la limite, ce que je dis, la règle qu'on pourrait avoir, c'est on commence par l'homéopathie dans toutes les pathologies aiguës et chroniques non aggravées, on va dire, et après on peut donner d'autres médicaments dont on ne peut pas se passer, ce que tu disais, c'est-à-dire que d'autres médicaments parce que l'homéopathie est dépassée dans la mesure où l'énergie vitale c'est pas possible de réagir, l'organisme n'est pas capable de réagir. Donc je dirais qu'à la limite, dans le type de l'homéopathie a toute sa place en prévention, parce qu'on pourrait commencer par soigner les enfants en particulier, les maladies aiguës, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, en commençant par l'homéopathie. On s'aperçoit que dans nos pratiques, dans 80% des cas, on n'a pas besoin de donner autre chose. Alors c'est sûr qu'il y a des fois, si. L'exemple que tu... Que les limites, c'est effectivement les maladies, les pathologies chroniques graves, le cancer, le diabète, l'hypertension avérée et en place, etc. L'hypertension labile au début, on pourrait la soigner d'abord pour homéopathie pour pas donner trop de médicaments allopathiques. C'est pour ça qu'on pourrait d'ailleurs travailler beaucoup ensemble et que nous trouvons tous en tant qu'homéopathes dommage qu'on nous mette dehors de la médecine classique.
Itinéraire santé sur le réseau FM+, donc une émission consacrée pour ce mois d'octobre à l'homéopathie en compagnie des docteurs homéopathes Marie-Lu Caron, Philippon et Sonia Cohen. Mesdames, docteurs, comment se passe une consultation? Combien de temps ça dure? Faut-il revenir? Quels sont les tarifs? Enfin, dites-nous tout sur une consultation.
tout ce que vous voulez savoir sur l'homéopathie, wow, sans oser le demander.
Là, vous êtes en train de tout nous dire hein, sur ces émissions. Merci, merci. Donc voilà, moi, c'est la première fois, voilà, sur les conseils d'une amie, il faut absolument arrêter les médicaments allopathiques, te soigner par homéopathie. Voilà, va pour une consultation chez
un homéopathe. Ça dépend du médicament que vous prenez, parce que ça, c'est pas une bonne consultation. On dit non, on n'arrête pas les médicaments si vous êtes sous antihypertenseur ou si vous êtes sous antidépresseur, on vous les arrête pas tout de suite.
Oui.
Le docteur Cohen va vous expliquer.
Donc
comment.
En fait, une consultation d'homéopathie se déroule en fait au départ comme une consultation, comme je le rappelais tout à l'heure, quand vous allez voir votre médecin généraliste, allopathe. C'est-à-dire que l'écoute est importante, donc la consultation est effectivement assez longue. Donc on recueille toutes les informations, pourquoi la personne est venue nous voir, donc on recueille, donc c'est l'écoute. Ensuite, donc ce qui est important du point de vue homéopathique, si vous voulez, c'est qu'on va hiérarchiser les symptômes. C'est-à-dire que pour tout homéopathe, il y a des symptômes très rares qui sont importants. Par exemple, une personne vient me voir et me dit j'ai de la fièvre, mais je suis agitée. Alors qu'une autre personne viendrait me voir en me disant j'ai de la fièvre et je suis abattue, je ne donnerais pas le même remède. Donc on doit effectivement recueillir des symptômes assez rares qui sont individuels et qui correspondent à la maladie de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, l'homéopathie, pour moi, c'est une maladie du soi. C'est une maladie qui a un sens. Nous, en tant que médecins homéopathes, on va donner un remède qui correspond à cette personne. Donc, en recueillant bien sûr tous les symptômes. Ensuite, on examine. Voilà, la prise de tension, les téguments, l'aspect de la bouche, l'examen abdominal. Enfin bon, on fait un examen clinique. Voilà, et après, en fonction, par exemple, des symptômes que l'on a recueillis, le symptôme qui est rare et qui est individuel nous aide. Alors, les modalités aussi sont importantes, c'est-à-dire on demande à quel moment de la journée, est-ce que cette pathologie, ce problème est aggravé l'hiver ou bien en été ou bien l'humidité. Et tout ça nous évoque des remèdes bien particuliers qui sont dans une matière médicale. On a en tête au moins plus de 2000 remèdes. Et bon, bien sûr, on prescrit souvent des remèdes que les pharmacies, enfin, sinon on peut commander hein, des remèdes un petit peu rares, mais c'est souvent des remèdes quand même qui sont assez connus et qu'on a rapidement, on les prescrit le jour même, on a le remède homéopathique. Donc c'est vrai qu'une consultation peut durer un petit peu plus longtemps parce que en fait, on ne s'intéresse pas uniquement à la douleur ou à la fièvre de la personne, mais à tout l'individu, à toute la personnalité. C'est-à-dire, on va même jusqu'à demander à décrire les rêves. Il vient nous voir parce qu'il a mal à la gorge et on lui demande de quoi il rêve. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre. Mais d'où l'intérêt de l'homéopathie, c'est que c'est vraiment la globalité, comment la personne va vivre sa maladie, quel sens cette maladie va avoir dans sa vie. C'est la maladie, pour moi, c'est la maladie du soi, S-O-I. Voilà comment je pourrais prescrire l'homéopathie. Alors maintenant, effectivement, on donne souvent des dilutions faibles, c'est-à-dire entre la 4CH et la 9CH pour des pathologies lésionnelles, on va dire, et à partir de la 12e CH ou centésimale hanmanienne, donc on peut donner des remèdes des centésimales plus élevées quand la pathologie est plus profonde, par exemple pour des symptômes, des troubles du sommeil, l'anxiété, à partir du moment où c'est une maladie avec des symptômes psychiques importants. Voilà, et donc plus les symptômes psychiques sont importants et plus on va dans des dilutions de plus en plus élevées, paradoxalement. parce qu'il y a une énergie, pareil, une vibration, on ne sait pas comment ça fonctionne exactement, mais on se rend compte qu'avec des dilutions élevées, la personne se sent mieux. Alors c'est vrai qu'on ne doit pas renouveler des remèdes homéopathiques tout au cours de l'année, parce qu'on attend comment le remède va agir, et dès que la personne va mieux, on peut se permettre d'arrêter ce remède comment, et voir ainsi comment la personne va réagir sans ce remède. Parce que le but de l'homéopathie, ce n'est pas non plus de supprimer des symptômes, c'est quand même la guérison. La guérison, mais pas en prenant toute l'année son remède homéopathique. Sinon, ce serait pour moi de l'allopathie. C'est-à-dire que si elle a toujours besoin de prendre chamomilla toute l'année parce qu'elle a mal aux dents ou pour une autre pathologie, pour moi, ce n'est pas de l'homéopathie. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, arrêter le remède et voir comment l'organisme, c'est-à-dire comment notre vitalité réagit. Et on voit, peut-être d'autres symptômes apparaîtront et donc on change le remède. Voilà comment nous concevons l'homéopathie. Je ne sais pas si Marie-Lu a d'autres choses à rajouter.
Non, j'ai rien à rajouter d'autre de ce que tu viens de dire, si ce n'est qu'effectivement, c'est une manière tellement différente de voir la maladie. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, c'est d'attendre que des symptômes, que de permettre à la maladie d'évoluer. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de le faire admettre à certains patients. Certains le sont complètement là-dedans. Donc, ce qui fait que de temps en temps, on fait, et en particulier, on n'a pas tous la même façon de pratiquer l'homéopathie, on fait ce qu'on appelle des drainages. Drainage du foie, drainage du rein, de façon à permettre à la personne de disons entre guillemets de nettoyer tous les émonctoires que ce soit le foie, le rein, la peau, et ça permet peut-être de passer ce cap qui consiste à dire bon ben j'arrête tout, je vois ce que ça donne, et après d'autres symptômes apparaissent, et à ce moment-là de changer de médicament, parce qu'effectivement la personne dans toute son évolution n'est pas toujours sur le même médicament homéopathique, son énergie n'est pas toujours sur le même médicament homéopathique, et c'est ça qui est un petit peu difficile aussi à faire admettre à la faculté, on va dire. Donc quelquefois on peut aussi faire des concessions, on va dire, à la faculté, et de faire de l'homéopathie allopathique, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments pour des symptômes, parce que toute personne qui débute par un traitement homéopathique n'est pas prêt à entendre qu'on lui pose d'abord un tas de questions, il comprend même pas pourquoi on les pose, alors qu'il est venu pour la fièvre, comme tu disais tout à l'heure, il demande de quoi il rêve, et pas tout à fait prêt, donc à ce moment-là, il faut y aller doucement. Après, effectivement, une fois que l'on a, on est parti à se traiter par homéopathie, d'abord, on n'a pas besoin de prendre des millions de médicaments toute la journée.
Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord pour justement cette prise en charge globale de la personne, parce que enfin, moi, personnellement, ce que je regrette, c'est qu'en général, les médecins généralistes vous posent un minimum de questions. Voilà, c'est un traitement antibiotique, anti-inflammatoire, et basta. Ils ne cherchent pas vraiment à comprendre ce qui se passe.
Oui, c'est sûr, d'abord, pas une question de temps, puis il y a aussi une question, c'est vrai que quand vous venez pour une angine, vous avez la gorge rouge, vous avez mal en avalant, vous avez de la fièvre, il n'y a pas besoin de poser 10 milliers de questions, quoi. C'est-à-dire que la seule chose, c'est que ce que nous rajoutons, c'est que la personne, elle a mal à la gorge, elle va avoir soif, au contraire, elle va pas avoir soif, elle va avoir ce que tu disais tout à l'heure, elle va être abattue ou elle va être super excitée, donc on est bien obligé de poser la question parce qu'effectivement, les personnes ne vont pas obligatoirement dire, ben, en fait, vous savez, j'ai pas soif. Quand ils sont soignés par homéopathie, ils vont finir par nous le dire, mais au départ, ils n'ont pas idée de dire qu'ils n'avaient pas soif, ils s'en aperçoivent même pas. Et ça aussi, c'est important. C'est effectivement, il y a beaucoup de patients, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, il y a beaucoup de patients qui viennent, quand ils viennent voir un homéopathe, ils ont fait une démarche qui consiste à dire je viens aussi parce que j'ai besoin peut-être de prendre en compte ma maladie, c'est-à-dire de me soigner différemment. Alors que souvent, quand vous allez voir, il y a quand même un certain nombre de patients qui pourraient, je prends cet exemple un peu idiot, mais c'est quand un ulcère, voilà, je vous donne mon estomac, voyez, vous soignez votre estomac, le reste je m'en fiche. Non. Non, vous n'avez pas un ulcère parce que votre estomac est malade. Vous avez un ulcère parce que il y a tout un ensemble, et on va rentrer dans cette discussion-là. Et je pense qu'effectivement, il y a des patients d'abord qui n'ont pas du tout envie d'y rentrer, d'autres qui n'imaginent même pas que l'on puisse le faire. Donc il y a toute une démarche qui est tout à fait différente, que l'on pourrait aussi mettre en parallèle d'une démarche psychosomatique aussi.
Voilà, c'est ce que j'allais aborder.
Mais en même temps, on n'est pas psychiatre, ni psychologue, ni... Mais il y a cette démarche-là, on ne peut pas séparer les deux.
Alors c'est vrai que pour toute personne capables de rentrer dans le monde de l'homéopathie, et quand ils viennent nous voir, ils savent chez qui ils vont. À ce moment-là, si vous voulez, toute maladie a un sens. Toute maladie reflète quelque chose dans la vie de l'individu, et donc le remède homéopathique, c'est comme une espèce de clé qui va permettre à la personne de mieux se connaître. Elle va trouver la porte, il faut du temps parfois, beaucoup de consultations parfois, une écoute importante, et donc à partir du moment où le remède homéopathique et la clé trouve la bonne porte, la personne réalise que la maladie lui appartient et qu'on ne doit pas tout lui amener sur un plateau d'argent, qu'elle aussi elle est obligée de nous aider pour qu'on trouve la solution vers la guérison, et donc elle s'implique dans sa maladie.
Surtout que l'argent à forte dose, c'est toxique.
En plus.
Donc surtout pas de...
Est-ce que vous pratiquez les traitements unidose ?
Vous voulez parler de unicistes,
oui,
unidose ?
Voilà, c'est ça.
Ah, ouais, donc ça, c'est les plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles en homéopathie, effectivement. Comme disait Marie-Louis, alors il y a des écoles pluralistes, c'est-à-dire qu'on fait attention à tout ce qui est barrage, à tout ce qui peut faire barrage, drainage, etc. On ne va pas... ce serait trop long, mais... Donc c'est une école effectivement qui est intéressante, dans la mesure où ils ont une conception différente, où au départ, donc suite de médication importante, suite de vaccination, suite de... Il y a énormément de raisons pour lesquelles les organes vitaux peuvent être bloqués. Donc certains remèdes peuvent débloquer d'abord et ensuite trouver le remède. Et effectivement, il y a une école dite donc école uniciste où on trouve le similimum, c'est-à-dire le remède unique qui va englober tous les symptômes de la personne. Voilà, on ne va pas donner un remède parce qu'on a mal à la tête, un remède, mais un remède pour l'individu. Mais l'essentiel, comme on dit, c'est que ça marche et qu'on soit cohérent avec ce qu'on fait. Voilà, il faut une cohérence avec ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on, nous, chaque médecin, a à faire. Si on est persuadé qu'il faille au départ drainer, lever les barrages, ben, il faut le faire.
Alors, je vais vous poser la question, car j'ai vu que le docteur Bernard Long allait passer chez vous pour une conférence, et c'est un homéopathe uniciste, si je ne me trompe, hein. Alors voilà, c'est dans le cadre de vos actions, conférence de santé familiale, et ce sera le 13 décembre de 14h, pardon ?
Au local, à 14h, c'est ça.
Hein, 14h30 à 16h30, donc le docteur Bernard Long, homéopathe au quotidien, ou homéobobo, ça c'est la thématique. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même très reconnu ici à Montpellier. Donc, il vous en coûtera 10 euros. Il est préférable de s'inscrire au 09 52 38 09 69. Nous arrivons, il nous reste que quelques minutes sur cette émission. Est-ce que vous pouvez nous indiquer des références d'ouvrages à lire ou des sites internet pour en savoir plus sur l'homéopathie ?
Eh bien, je vais vous proposer justement Bernard Long, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Vivre avec l'homéopathie » aux éditions Indigènes. Et il viendra le 13 décembre parler d'un autre livre qui est peut-être plus... Quand on débute par l'homéopathie, il vaut mieux commencer par « Homéobobo ». C'est vraiment le béaba de l'automédication en homéo. Vivre avec l'homéopathie, peut-être c'est un peu plus détaillé, un peu plus...
Il faut déjà mais c'est bien, avoir des connaissances.
Un peu, mais les deux sont vraiment très bien. Donc il y a Homéobobo de Dr Long, je ne me rappelle plus de l'édition, je suis désolée, et Bernard Long, Vivre avec l'homéopathie, édition Indigène. Voilà, moi c'est les livres, peut-être il y en a d'autres.
Oui, sinon, bon, moi je donne souvent comme référence un pédiatre homéopathe qui s'appelle le Dr Bourgarit, parce que c'est vrai que parfois c'est bien d'avoir des petites d'avoir un manuel d'homéopathie en pédiatrie pour les mamans, pour les enfants, parce qu'on ne peut pas toujours déranger le médecin. Et donc il est très bien fait, ça s'appelle donc Thérapeutique homéopathique de l'enfant, donc édition Malouane, c'est le docteur Bourgarit.
Très bien, écoutez, un grand merci. Donc très rapidement, on rappelle l'adresse du centre.
740, les Atamantes, numéro 6, 740 rue des Apothicaires.
Le blog homeopourtous.sup.fr. Prochain rendez-vous itinéraire santé, le 1er et 3e mercredi du mois de novembre à 9h avec une nouvelle thématique. Ces émissions sont écoutables 24 heures sur 24 en podcast sur fmplus.org. Voilà, docteur Marie-Luc Caron, Philippon et Sonia Cohen, un grand, grand merci.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Et merci à Stéphane, à la technique.